Et bonjour, je voudrais savoir déjà dans la salle s'il y a beaucoup de biologistes. Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord, à peu près, au moins de 50%. Alors, on m'a demandé donc de traiter de la question des preuves et des questions ouvertes de la théorie de l'évolution. Donc, je vais dans un premier temps déjà bien redéfinir ce que l'on entend par l'évolution, et je vais même rajouter le terme d'évolution biologique, pour ensuite vous donner quelques faits scientifiques, passés ou récents, qui semblent donc justement conforter cette théorie scientifique. Alors tout d'abord, je voudrais préciser que la théorie de l'évolution biologique a pour objet la compréhension des processus responsables de la diversité biologique, qu'elle soit présente ou passée. Et donc, je vais complètement mettre de côté volontairement toutes les questions concernant l'origine de la vie, puisque ces questions-là, qui sont extrêmement intéressantes, sont totalement en dehors du champ de la théorie de l'évolution biologique, même si, évidemment, ça peut être une extension logique. Alors, dans le cadre de cet exposé, mon propos ne sera pas de décrire la théorie de Darwin telle qu'il l'a définie dans ses différents écrits, ni de donner une histoire des idées sur ces questions, mais plutôt de présenter le consensus scientifique du moment, donc ce consensus parmi la communauté scientifique, et qui correspond à ce qu'on a appelé le néo-darwinisme ou la théorie synthétique de l'évolution ou encore la synthèse moderne. Alors, la théorie de l'évolution biologique repose sur différents points extrêmement importants. Tout d'abord, son nom l'indique, il est question d'évolution. On parle d'évolution, on le définit de la façon suivante, ce sont des changements génétiques qu'une espèce va connaître au cours du temps. Il n'est pas question du type de changement de forme que l'on peut observer dans la vie d'un vertébré, par exemple, quand on passe de l'embryon du stade zygote au stade adulte, puisque là, dans ce cas-là, on parle de développement. Mais il est question d'une variation génétique qui va donc, du fait qu'elle est génétique, être transmise à la génération suivante. Ainsi, il n'y a pas d'évolution possible s'il n'y a pas de variation, et il n'y a pas d'évolution possible non plus si cette variation n'est pas d'origine génétique. Alors, juste un exemple pour qu'est-ce que j'appelle variation génétique ou pas génétique. Par exemple, la couleur de nos yeux, d'accord, elle est codée génétiquement. On a des yeux de couleurs différentes, et qu'il pleuve, qu'il neige, que vous mangiez ou non, la couleur de vos yeux, a priori, devrait rester la même, et vous allez transmettre cette information à vos descendants, à vos enfants. Par contre, si on prend par exemple le poids, notre poids, évidemment, il y a une part génétique, hein, cela, on est plus ou moins, on a proportion plus ou moins à grossir en mangeant, en surconsommant des sodas et des menus hypercaloriques. Mais il n'empêche qu'il y a aussi une part environnementale, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on va manger, on va plus ou moins grossir. Donc cette variation-là de poids que l'on peut connaître en fonction du régime alimentaire que l'on prend, ce n'est pas dû à la génétique, c'est simplement dû à ce qu'on appelle l'environnement. D'accord ? Donc je distingue bien la variation génétique d'une variation qui est simplement une variation de forme. En biologie, on parle de variation phénotypique qui n'est pas donc transmise à la génération suivante, ou pas forcément transmise à la génération suivante. Le deuxième point, donc, c'est le premier terme, donc évolution. Le deuxième point, c'est la notion de gradualisme, c'est-à-dire que les changements génétiques que va connaître une espèce sont généralement petits, sont des changements infimes, et ils vont s'accumuler graduellement au cours du temps. C'est-à-dire que l'émergence de nouvelles propriétés, de nouvelles caractéristiques, va prendre du temps, et d'autant plus que le temps de génération de l'espèce est court. Ça, c'est très important, parce que si on veut justement, en tant que scientifique, pouvoir observer un changement évolutif, on va pouvoir le voir peut-être sur des bactéries, sur des levures, éventuellement un petit peu sur des plantes qui ont un cycle de reproduction annuel, mais il est clair que dans la plupart des cas, on ne veut pas être témoin d'une variation, disons d'une évolution en tout cas, d'une évolution du fait de ce temps de génération qui est trop long. Ainsi, la diversité des formes vivantes que l'on observe aujourd'hui est considérée comme le résultat d'un long processus, généralement graduel, depuis l'émergence de la première cellule il y a 3,5 milliards d'années. Alors, sur cette notion de gradualisme, on reviendra juste à la fin sur les questions ouvertes. Il y a débat parmi les scientifiques, d'accord, au sein donc des scientifiques évolutionnistes sur la part justement de ce gradualisme et peut-être d'événements un peu plus drastiques, un peu plus catastrophiques, si vous voulez. Ainsi donc, avec le temps, une espèce va donner naissance, avec l'accumulation de ces variations génétiques, de ces différences, de ces nouvelles, l'émergence de nouvelles propriétés, une espèce donnée va donner naissance à de nouvelles espèces. C'est ce qu'on appelle le phénomène de spéciation, d'accord ? Et ces espèces sont les filles ou les descendants de l'espèce initiale que l'on va caractériser comme étant ancestrale. Alors, c'est un point clé dans l'évolution, dans la théorie de l'évolution biologique, c'est ce que Darwin a défini comme étant la descendance par modification. C'est-à-dire que toute paire d'espèces, vous preniez deux espèces, eh bien, toute paire d'espèces dérive d'un ancêtre commun. Évidemment, cet ancêtre est d'autant plus éloigné que ces deux espèces ont divergé depuis très longtemps. Et donc, plus ces espèces auront divergé depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elles auront dérivé d'un ancêtre commun il y a longtemps, plus elles auront accumulé de différences, de variations, plus elles seront différentes génétiquement. Alors, ces variations génétiques, elles apparaissent au hasard suite à des erreurs de copie des molécules d'ADN, qui est le support de l'information génétique. On parle de mutation. Et le devenir de cette mutation, de cette nouvelle propriété, si vous voulez, génétique, c'est-à-dire quand on parle du devenir de la mutation, c'est-à-dire son évolution en fréquence dans une population, est-ce que finalement cette nouvelle caractéristique va devenir fréquente ou non ? Au début, elle apparaît de façon aléatoire, elle est très très rare, et en fait, différents processus vont faire que cette mutation va s'imposer ou non dans la population, voire dans l'espèce. Deux forces majeures vont agir sur le devenir de cette variation génétique. La sélection naturelle, dont on va parler dans quelques instants, surtout si la population est large, de grande taille. Mais quand les populations sont de petite taille, et ce qui s'est sûrement produit dans l'histoire de l'évolution des espèces, eh bien, on pense que c'est plutôt le hasard, si vous voulez, ce qu'on appelle la dérive, qui va jouer, le hasard. Imaginez, par exemple, c'est l'équivalent, vous avez un sac de billes, c'est l'exemple que je donne généralement en cours. Prenez un sac de billes avec 1000 billes bleues et une bille rouge, d'accord ? Donc la bille rouge est très rare. Vous allez prélever parmi ces 1001 billes, 10 billes. Il se peut par hasard que vous récupériez la bille rouge et vous allez donc, par ce biais-là, d'échantillonnage, modifier la fréquence de la bille rouge, disons de la propriété rouge. D'accord ? Et c'est ce qui se passe en fait quand les populations connaissent des variations de taille au cours du temps. Eh bien en fait, si vous voulez, le passage de l'ensemble des gènes d'une génération à l'autre correspond à un échantillonnage comme on l'a effectué là dans un sac de billes. Et donc, quand les populations sont de petite taille, eh bien il va y avoir des variations qui sont purement aléatoires, que cette propriété soit intéressante ou non dans l'espèce. Alors, j'ai parlé de la sélection naturelle, puisque c'est quand même un des processus clés qui amène à ce que les espèces sont adaptées à leur environnement. Alors, on peut la définir ainsi. Si au sein d'une population, d'une espèce donnée, donc quand je parle de population, c'est un ensemble d'individus qui peuvent potentiellement se croiser, d'accord ? Donc, échanger des gènes. Donc, si au sein d'une population, d'une espèce donnée, des individus diffèrent génétiquement, ils ont des différences. Vous savez, je viens de dire qu'on accumule des mutations, des variations, et si justement il y a des différences entre ces individus, et que cette différence confère un avantage aux individus qui portent cette différence, que ce soit un avantage à la survie ou à la reproduction, alors la propriété émergente qui confère un avantage qu'on va pouvoir appeler par exemple les bons gènes, eh bien, en espérant, s'il voulait, à la génération suivante, ces bons gènes vont augmenter en fréquence, puisque les individus qui portent ces bons gènes survivent mieux et produisent plus de descendance. D'accord ? Donc c'est ça le phénomène de la sélection naturelle. C'est finalement un phénomène qui permet l'accroissement, disons l'augmentation en fréquence, de propriétés qui sont avantageuses pour les gens qui les portent. Ces propriétés avantageuses étant génétiques. D'accord ? Donc la sélection naturelle est considérée comme le processus majeur qui conduit à l'adaptation des espèces à leur environnement. Donc voilà pour la définition un peu formelle de ce qu'est la théorie de l'évolution biologique. Je pense qu'il est important quand même, c'est de m'arrêter quelques instants sur ce qu'on entend par une théorie, et en particulier en science. Parce que bien souvent, finalement, l'argumentaire réside sur cette notion de théorie, c'est-à-dire que dans l'usage courant, une théorie est une spéculation. C'est une opinion. Alors qu'en science, une théorie, c'est une construction intellectuelle, méthodique et organisée, de caractère hypothétique et synthétique. Ainsi, une théorie scientifique, c'est plus qu'une hypothèse, c'est un corpus cohérent d'hypothèses éprouvées. Une théorie scientifique est un ensemble d'affirmations qui sont interconnectées et cohérentes, basées sur des faits observés, qui expliquent un grand nombre d'observations et qui ont été testées à l'aune des faits observés. Donc, vous avez ici un schéma de cette démarche scientifique. D'accord ? Vous allez émettre une hypothèse en science et vous allez confronter cette hypothèse. Cette hypothèse va peut-être vous amener à poser une question et à mettre en place une expérience pour répondre à ces questions. D'accord ? En science, généralement, on a toujours les réponses aux questions. Toute la question est de savoir si la question est bien posée au départ. Mais a priori, quand on travaille bien en tant que scientifique, on a toujours une réponse à la question posée. Elle n'est pas forcément très intéressante, mais en tout cas, on a une réponse. Donc voilà, on pose une hypothèse, on se dit, ben voilà, est-ce que cette hypothèse-là, elle est cohérente avec ce que j'observe ? L'observation va justement générer des questions supplémentaires qui va me permettre eh bien, de poser des prédictions, parce que ce qui est intéressant dans une théorie scientifique, c'est non seulement sa validité ou sa véracité va dépendre de sa capacité à expliquer ce que j'observe, mais aussi à prédire. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un travail récurrent. Au fur et à mesure que l'on accumule les faits et qu'on confronte les faits à nos hypothèses, on ajuste ces hypothèses-là. J'ai bien parlé de véracité, je ne suis pas philosophe des sciences, donc peut-être que je n'utilise pas le terme exact, mais je parle de véracité parce qu'on est parfois dans un débat entre vérité scientifique et puis vérité révélée. Là, il est question d'une vérité scientifique, mais on parle plutôt de véracité, c'est-à-dire qu'un scientifique... Eh bien, il s'accroche à cette théorie tant qu'elle n'est pas contredite, tant qu'il n'y a pas de meilleures hypothèses, de meilleures théories pour expliquer ce que l'on observe. Alors, à l'aune de ces critères que je viens de poser, la question est de savoir finalement si la théorie de l'évolution biologique est une théorie scientifique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. En tout cas, c'est évidemment ce que pense la communauté scientifique en biologie. Est-ce qu'on peut donc considérer la théorie de l'évolution biologique comme une théorie scientifique ? Dispose-t-on de suffisamment de faits, ce que le titre dit les deux preuves, pour étayer cette théorie ? Plus encore, est-ce que cette théorie de l'évolution donne un sens, une organisation à la diversité du monde vivant, qu'elle soit passée ou actuelle ? Alors, plutôt que de vous faire une liste à l'après-vert, déjà je n'ai pas le temps, et puis... Je pense que ce ne serait pas très intéressant. Donc, plutôt que vous faire une liste après vers des faits de la théorie de l'évolution, je vais simplement vous tenter de vous montrer ou démontrer par quelques exemples en quoi la théorie de l'évolution biologique est concordante à ce qu'on observe et est donc une théorie scientifique valide. Alors, tout d'abord, on va discuter un tout petit peu de cette notion de descendance avec modification. C'est un des apports clés de Darwin. Et on va s'intéresser à ce que disent les fossiles par rapport à cette idée de descendance avec modification. Alors, vous savez peut-être tous ce que sont les fossiles. Ils sont connus depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Et il faut savoir que la formation des fossiles requiert des conditions particulières, c'est-à-dire qu'en fait... Finalement, sur l'ensemble des espèces qui ont dû exister, on estime à 1% le nombre d'espèces qui ont en effet laissé une trace dans les fossiles. Alors, première condition, il faut que les restes des plantes et des animaux se retrouvent dans l'eau, qui coule au fond, donc d'un lac ou d'un océan, et il faut qu'ils soient rapidement recouverts de sédiments pour ne pas se dégrader. qui fait qu'il est rare qu'on retrouve des fossiles de plantes ou d'animaux terrestres qui, finalement, ont peu de chances de se retrouver au fond d'un lac ou au fond d'un océan. Une fois recouverts de sédiments, les parties dures des fossiles sont infiltrées ou remplacées par des sels minéraux en solution. Et ce qui va rester, c'est une empreinte, un moule d'une créature anciennement vivante, mais qui ne l'est plus, bien sûr, et qui va ensuite, sous l'effet de la pression du sédiment qui s'accumule, se compresser et avoir un aspect de pierre. On va donc principalement retrouver dans les fossiles tout ce qui est vestige, disons, reliques des organes durs, des organismes vivants. Donc on va surtout trouver des fossiles de dents, d'os, des carapaces d'insectes ou de crustacés. Alors l'idée, c'est que les différentes strates géologiques qui correspondent donc à différentes périodes, correspondent à différentes périodes, et les plus anciennes sont forcément celles qui se trouvent le plus profondément. Et donc par association, on va pouvoir dater en fait l'émergence ou disons de certaines espèces de formes fossiles, puisque ce sont des espèces fossiles, par rapport à leur emplacement dans ces strates géologiques. Alors, selon la théorie de l'évolution, on s'attend à trouver à travers les strates les formes les plus simples dans les strates les plus anciennes, les formes les plus complexes et celles qui ressemblent le plus finalement aux espèces que nous connaissons aujourd'hui dans les strates les plus récentes, et c'est ce que l'on trouve. Selon la théorie de l'évolution, on s'attend à trouver des espèces qui disparaissent, c'est ce que l'on trouve. Selon la théorie de l'évolution, on s'attend à trouver des formes de transition témoins de la descendance, justement avec modification, j'en arrive, dans les bonnes strates, c'est-à-dire aux bonnes périodes, et c'est ce que l'on trouve aussi. Alors, pour ne citer quelques exemples, je vous donne par exemple ici l'exemple d'une forme de transition des poissons vers les amphibiens. Alors, en 2004, en fait, on a trouvé un fossile qui a été intitulé Tictalic rosea. Donc, c'est cette forme-là, d'accord ? Et ça a été trouvé, finalement, donc le chercheur qui a cherché cette espèce-là, en fait, cette forme de transition entre les poissons et les amphibiens, eh bien, il a cherché, évidemment, il s'est dit, je sais que les amphibiens et les poissons vivaient dans des environnements d'eau douce, donc il faut que je cherche des endroits où il y avait justement sédimentation dans des régions où il y avait de l'eau douce, et évidemment à la période où je m'attends à trouver la forme intermédiaire. Il a donc cherché longtemps, 5 ans, dans l'Arctique, au nord du Canada, et il a trouvé ce fossile, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, mais qui présente justement une forme intermédiaire entre ce poisson et cet amphibien, un peu primitif. Et en particulier, vous voyez une évolution du membre, de la nageoire. Alors, on pense que cet animal-là, Tictalic, ne pouvait pas se mouvoir sur la terre, parce que vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à une nageoire. Mais il a une forme intermédiaire entre poisson et amphibien, parce qu'il a encore des branchies. Mais par contre, il a une forme de crâne plate, comme les salamandres, et puis les narines qui se retrouvent en haut du crâne, disons en haut et non pas sur le côté, ainsi que les yeux. Et donc vous voyez ici une forme relativement, disons, il me semble, convaincante, une forme transitoire, une forme de transition des poissons vers les amphibiens, dans des strates datées qui correspondent à peu près au moment où on s'attend à voir ces formes transitoires. Bon, le chercheur qui a trouvé cela a fait une hypothèse, il l'a testée et elle s'est avérée juste. On a le cas aussi assez connu du retour des mammifères terrestres, donc ce mammifère-là, vers la forme aquatique. Donc vous avez ici les différents squelettes, et en particulier vous voyez que peu à peu, les membres se transforment en nageoires. Vous avez ici une variation de la taille à l'échelle entre la baleine et puis le premier, l'ancêtre le plus, disons, une forme plus ancestrale. Vous voyez donc en fait, malgré tout, cette baleine ou le dauphin conserve une forme de membre. C'est une nageoire, mais modifiée. On retrouve les membres ancestraux, disons une forme ancestrale. Et vous avez même ici, là, une trace, un vestige du membre inférieur qui parfois réapparaît de façon externe quand vous avez des variants, des mutations qui permettent l'expression finalement, disons, l'apparition de ce membre-là. Donc vous voyez, il y a toute une suite de fossiles qui semblent bien montrer un cheminement relativement graduel d'une forme vers une autre. Quand on compare maintenant, donc je sais qu'on ne va pas beaucoup parler de l'homme aujourd'hui, hein, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais il fallait quand même que j'en parle un tout petit peu. Vous voyez qu'ici, là, on compare le squelette humain, sa mâchoire, avec le chimpanzé, qui est considéré comme l'ancêtre, disons le cousin, pardon, le plus proche de l'homme. On considère que l'homme et le chimpanzé dérivent d'un ancêtre commun d'il y a à peu près entre 5 et 7 millions d'années. Et vous avez ici une forme intermédiaire, Australopithecus afarensis, qui a en effet qui semble montrer en effet quelque chose d'intermédiaire. Alors, on observe aussi cette évolution, du moins cette gradation des propriétés, disons, des caractéristiques anatomiques de l'homme, dont, avec une cohérence par rapport aux dates estimées de ces différents fossiles. Donc, en passant ici, vous avez donc un crâne de chimpanzé. Et puis vous avez ici le crâne d'Homo sapiens, Homo habilis, Australopithecus afarensis, etc., avec donc un élargissement de la boîte crânienne, une diminution des dents. Et puis quand on regarde l'anatomie globale aussi, on se rend compte une évolution vers le fait de pouvoir marcher debout. Alors, ça voilà quelques exemples de fossiles. Il me semble qu'il est intéressant de se poser la question, mais cette image que l'on a des fossiles, est-ce que finalement, au regard de ce que l'on a des nouvelles données, en particulier en génétique, eh bien, est-ce que c'est concordant? Est-ce que aussi les données génétiques concordent, disons, vont dans le sens d'une évolution biologique? Alors, on va regarder justement ce que nous disent les gènes et les génomes. Au regard donc de l'évolution, on va un peu s'intéresser à l'évolution de l'homme, et puis plus globalement, l'évolution des espèces. Alors, comme je ne savais pas où vous en étiez dans vos connaissances en génétique, je vais faire très très court, parce que de toute manière, j'espère pas utiliser de termes trop techniques. Mais vous savez donc peut-être que l'information génétique, elle est portée par une molécule, d'accord, qu'on appelle l'ADN. Et cette molécule d'ADN, quand elle code pour une protéine, on appelle ça un gène. D'accord ? Donc il y a tout un processus de transfert d'informations de l'ADN dans la cellule, de l'ADN via, un intermédiaire informationnel, l'ARN, vers la protéine. Donc l'ADN est composé de 4 bases nucléotidiques, et ces 4 bases-là, finalement, sont l'alphabet de l'ADN, disons de l'information, le support de l'information. On va utiliser une combinatoire. L'ARN aussi est un acide nucléotidique. Et puis vous avez donc cette traduction-là de cette information sur l'ADN en protéines qui s'exprime par des acides aminés donc qui sont les différentes briques composant une protéine. Donc je rappelle qu'un gène est un fragment d'ADN qui code pour une protéine, que les molécules d'ADN se retrouvent compactées dans le noyau des cellules sous forme de chromosomes, et que l'ensemble des chromosomes constitue ce qu'on appelle le génome d'une cellule ou le génome d'un organisme. D'accord ? Parce que je vais utiliser ces termes dans quelques instants. Alors, quand même préciser, ce code génétique, en fait, donc comment se fait la traduction entre ADN, disons de l'ADN vers la protéine ? Eh bien, en fait, c'est par un code à 3 bases, ce qu'on appelle un codon. Donc un codon sera composé de 3 bases, et ces 3 bases-là seront traduites par un acide aminé, avec une machinerie assez complexe. Vous voyez que ce code est redondant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de coder pour cet acide aminé qui s'appelle SER pour la sérine. Vous en avez aussi 4 pour la proline. Et puis vous avez des codons qui sont très spécifiques, qui indiquent que le gène se termine. Ce sont des codons stop. Et puis généralement, les gènes aussi commencent par un codon d'initiation qui est donc la méthionine MET. Donc vous voyez que, maintenant, imaginez que vous avez des variations génétiques sur ces codons, d'accord ? Eh bien, ces variations génétiques sur ces codons, elles peuvent ou pas affecter la traduction. On va dire qu'elles sont silencieuses ou non silencieuses. Vous voyez qu'ici, par exemple, si vous avez une mutation sur la troisième base qui code pour la sérine, eh bien, c'est pas grave. Imaginez que vous avez U en C, ça reste une sérine. C en A, ça reste une sérine. Et A en G, ça reste une sérine. Donc, ce sont des mutations qui sont dites silencieuses, qui ne posent aucun problème pour que la protéine soit fonctionnelle. D'accord ? Et la plupart des mutations, des variations génétiques dans les génomes, sont des mutations silencieuses. Alors, juste quelques résultats sur les résultats. Vous savez qu'on a séquencé le génome entier de l'homme, on a séquencé le génome entier du chimpanzé. Je vous rappelle que donc on considère que la séparation de la lignée homme-chimpanzé date d'à peu près 7 millions d'années. Alors après, tout est une question d'appréciation. Hein, sur les 25 000 gènes qui composent ces génomes, il y a 1,5% de différence entre les séquences de protéines, 4% de différence au niveau des séquences ADN prises dans leur totalité, donc en ne considérant pas seulement les gènes, même si quand même, ça ne veut pas dire que tout est strictement identique, parce que vous voyez qu'il y a quand même 6% des gènes que l'on trouve dans le génome humain et que l'on ne trouve pas chez le chimpanzé. C'est-à-dire que quand même, la différence entre le chimpanzé et l'homme, elle est faible, disons, la différence génétique, mais il y a quand même, il n'y a pas un seul gène qui fait que le chimpanzé est chimpanzé et que l'homme est un homme. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde comment sont composés les génomes, en fait, on parle généralement des gènes, mais il faut savoir qu'en gros, le génome, les gènes qui composent donc les chromosomes, eh bien c'est comme des petits îlots dans un océan d'ADN qui ne sert quasiment à rien. D'accord ? Donc, il y a 5% du génome qui code, qui est relié aux gènes, donc soit à la régulation des gènes, soit à l'expression même des gènes, disons, qui codent pour des protéines, mais ça veut dire que 95%, c'est ce qu'on a appelé des fois l'ADN poubelle. On peut en discuter, est-ce que c'est vraiment de l'ADN poubelle ? Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a énormément d'informations. Disons, l'information, elle est très diluée dans le génome humain. Alors, parmi cette information, cette composition de ce que l'on voit dans le génome, on a ce qu'on appelle des pseudogènes, c'est-à-dire on observe dans les génomes des gènes, donc des séquences d'ADN qui ressemblent à des gènes qui codent pour des protéines, mais il y a eu quelque chose, une mutation, quelque chose qui fait que ce gène ne fonctionne plus. D'accord ? On appelle ça donc des pseudogènes, parce qu'ils ont tout d'un gène, mais ils ne travaillent pas comme des gènes, puisqu'ils ne fonctionnent plus. Donc, première chose, et il y en a un certain nombre. Et puis, 45% du génome est composé d'éléments mobiles, si vous voulez, qu'on peut comparer à des parasites. Imaginez que vous voyez un peu le parallèle entre un parasite et puis nous, l'hôte que nous sommes, quand nous combattons par exemple contre la grippe. Eh bien, en fait, dans le génome, il y a une trace comme ça d'invasion d'éléments mobiles qu'on appelle les transposons. Et ces éléments mobiles sont tellement mobiles qu'ils ont envahi le génome. Ils représentent 45% du génome humain. Alors, on ne sait, la plupart du temps, il y a pas mal de questions. Comment se fait-il qu'il y en a autant ? C'est tout simplement, la première réponse est que le génome n'est pas capable de s'en débarrasser. Mais il s'avère quand même que quand on regarde un petit peu l'histoire des génomes, on se rend compte que parfois, ces éléments mobiles ont été utilisés, disons, ont servi, ont participé à l'évolution des génomes et la diversification des génomes. Donc, ils ne sont pas uniquement, entre guillemets, inutiles. En tout cas, ils ont été exploités lors de la sélection naturelle, disons, lors de l'évolution. Alors, pourquoi je parle de ces pseudogènes et de ces composés d'éléments mobiles ? Parce que bien souvent, quand on compare finalement le chimpanzé et l'homme, on les compare sur les séquences codantes, et puis on dit simplement la chose suivante, c'est normal, deux choses qui se ressemblent, ils se ressemblent phénotypiquement, dans leur apparence, c'est normal qu'au niveau génétique, au niveau des protéines, ils aient à peu près la même chose. D'accord ? Donc ça ne prouve pas qu'ils ont ces protéines, cette information génétique est héritée d'un ancêtre commun. Maintenant, cette argumentation-là ne tient pas quand on s'intéresse aux pseudogènes qui ne servent à rien ou aux éléments mobiles aussi qui sont là, dont on peut dater leur date d'invasion sur des données, disons, en observant les séquences, en regardant leur identité, on peut dater même leur temps d'invasion. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que quand on compare le génome du chimpanzé et le génome de l'homme, eh bien, certaines invasions, certains éléments mobiles sont partagés aux mêmes endroits entre le génome humain et le génome des singes. C'est-à-dire qu'en fait, l'explication la plus simple, c'est de se dire que pourquoi ils partagent les mêmes éléments mobiles, les mêmes insertions aux mêmes endroits, c'est parce qu'ils l'ont hérité d'un ancêtre commun. D'accord ? C'est, il me semble, l'hypothèse la plus parcimonieuse. Donc ces fossiles génétiques nous renvoient à cette idée aussi, comme les fossiles dont on a parlé il y a quelques instants, de cette descendance avec modification. Si l'on compare maintenant les chromosomes du singe et du chimpanzé pardon, et de l'homme, eh bien, ils se ressemblent énormément. On peut les associer par paires. Donc, je vous demande de me faire confiance. Hein, ils se ressemblent. Vous voyez que les bandes se ressemblent, mais même au niveau de l'information génétique à l'intérieur. Alors, évidemment, il y a des petites différences, hein, puisque ça fait comme 7 millions qu'ils ont divergé. Donc, il y a pas c'est normal. Alors, il y a une particularité, c'est que le chimpanzé a 24 paires de chromosomes, alors que l'homme n'en a que 23. Et en fait, on constate que ce chromosome-là, 2 de l'homme, eh bien, ressemble, il y a une homologie, disons, une ressemblance entre ce chromosome 2 qu'on a appelé 2A chez le chimpanzé et le deuxième chromosome 2B, donc cette paire supplémentaire observée chez le chimpanzé. Et en fait, quand on regarde la séquence ici, donc la succession de bases AGTC, etc., eh bien, on retrouve la trace, finalement, d'une fusion, c'est-à-dire qu'on retrouve l'extrémité de ces chromosomes-là et de ceux-là, et qui ont finalement participé, qui ont fait que ces deux chromosomes ont fusionné et ont généré ce chromosome 2. Et ça, c'est difficile de comprendre autrement que aussi par une descendance avec modification. Donc, tous ces faits semblent quand même suggérer que le chimpanzé et l'homme partage un ancêtre commun. Alors je vais passer parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, en fait, donc comme on a décalé, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Jusqu'à 11h10 ? D'accord, bon, ça va. Oui, jusqu'à 12h10, oui. Bon, quand on compare l'ensemble des contenus des génomes des différentes espèces, ici, vous avez le résultat de séquençage, de génome. Bon, ça date un petit peu, mais ce n'est pas grave. Vous avez ici, donc, on a comparé le contenu en protéines de différentes espèces, l'homme, vertébré, en fait, c'est la souris, un animal non vertébré, un eucaryote non animal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une levure, et puis une bactérie. Vous constatez que, en fait, ce qu'on observe, c'est... Alors, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on compare le contenu, d'accord ? On compare toutes les protéines de l'homme. Alors ça, on fait ça avec l'ordinateur. On dit qu'on fait une analyse in silico. Et on regarde, est-ce que finalement, toutes ces protéines que je trouve chez l'homme, est-ce qu'elles ressemblent ? Est-ce qu'elles sont retrouvées dans les autres organismes ? Eh bien, 21% des protéines que je trouve chez l'homme sont partagées par l'ensemble du règne vivant. C'est-à-dire que finalement, ces protéines-là, elles sont le socle essentiel pour qu'une cellule fonctionne. Elles datent de très longtemps, puisqu'on estime à peu près à 3,5 milliards d'années l'émergence de la cellule. Et elles sont suffisamment importantes pour qu'elles aient été conservées dans leur fonction et dans leur séquence, pour qu'on puisse les retrouver. Donc vous voyez, au fur et à mesure de l'arbre du vivant, on constate qu'on a ensuite 32% des protéines trouvées chez l'homme qui sont communes à l'ensemble des cellules eucaryotes, donc on exclut les bactéries. Et puis on remonte comme ça peu à peu, 24% des protéines qui sont communes à l'ensemble des animaux non vertébrés. Et ça, ça participe, on pense que l'augmentation l'émergence de ces gènes participe à le fait que ces organismes deviennent multicellulaires. Donc il y a une différenciation génétique qui se fait, une organisation dans le développement. Puis 22% qui sont partagés par l'ensemble des vertébrés, c'est... la multiplication des gènes impliqués dans l'immunité, dans le système nerveux. Et puis simplement 1%, là, qui est propre à l'homme, et ce 1%, c'est quand on compare à la souris. D'accord ? Donc c'est extrêmement réduit. Alors, l'étude, la séquence de ces génomes nous renseigne aussi sur des phénomènes extrêmement importants. Et peut-être ça nous permettra de réfléchir un peu sur la notion de, finalement, est-ce qu'il y a une variation graduelle qui participe à l'émergence de nouvelles espèces. Il y a une hypothèse très ancienne, disons très ancienne, non, plutôt qui date des années 70, de Ono, où il constatait la chose suivante, c'est que généralement, quand on comparait une protéine d'insecte avec celle d'un vertébré, généralement, on trouvait un gène qui code pour cette protéine en un seul exemplaire chez l'insecte, et généralement, on le trouvait plus en 4 exemplaires chez les vertébrés. D'accord ? Donc, 4 fois plus, en gros, 4 fois plus de gènes chez les vertébrés que chez les insectes. Et l'idée, c'est que cette multiplication par 4 serait due à un phénomène de multiplication par 2, on appelle ça de duplication totale du génome, 2 fois, et donc vous multipliez par 2, donc une première duplication ici, et une deuxième. Et si en effet, il y a eu ce double phénomène de duplication, vous attendez à une organisation génétique de ce type-là. Alors, c'était une hypothèse qui était très difficile à tester parce que, dans la plupart des cas, on n'a pas 4 exemplaires, chez l'homme par exemple, on n'a pas 4 exemplaires de tous les gènes que l'on retrouve chez les insectes. Parce qu'on s'attend à ce que, dans la plupart des cas, on perde ces copies supplémentaires. Alors, simplement, je vais aller très rapidement, mais en fait, des auteurs récemment ont essayé de poser cette question. Ils disposaient du séquençage, disons, du génome entier, donc de l'information génétique des génomes entiers de l'homme, de la souris, d'un poisson, et puis d'un invertébré. D'accord ? Et ils ont essayé de voir, est-ce qu'on retrouve la trace de duplication ? Est-ce qu'on peut retracer l'histoire de ces multiplications de gènes ? Est-ce que c'est dû à une duplication entière du génome ou pas ? Alors vous avez ici imaginé, parce que c'est un peu comme ça qu'ils ont fonctionné, vous imaginez que là, les gènes, ce sont différentes couleurs, ces petits cubes, d'accord ? Et imaginez qu'ici, c'est le chromosome ancestral, donc avant la duplication, d'accord ? Donc vous avez un premier événement de duplication, là, ici, et donc vous voyez, vous multipliez par 2 cette branche-là, composée des différents cubes, et évidemment, vous avez une reproduction à l'identique. Et puis avec le temps, on s'attend à ce que certaines des 2 copies disparaissent, parce que ça coûte à l'organisme, et si ça ne sert à rien, c'est éliminé par la sélection naturelle. Donc, évidemment, si rien ne bougeait, ce serait simple. Si on trouve 4 fois ça, on a montré qu'il y avait, double duplication. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser, donc les auteurs ont développé un algorithme informatique en acceptant l'idée qu'on va perdre certaines copies. D'accord ? Et puis, on imagine qu'une deuxième duplication va avoir lieu. Donc, vous voyez que cette copie-là se duplique là. Au départ, elles sont à l'identique. Celle-ci se duplique avec celle-ci, donne celle-ci. Et chacun va vivre sa vie. C'est-à-dire, il va y avoir une perte aléatoire d'une des 2 copies. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il y a c'est ce brin-là qui va perdre ou celui-ci. Ça va se faire de façon aléatoire. Mais il n'empêche que ces 2 branches-là, disons ces 2 brins-là, composés des différents carrés, se ressemblent plus que ces 2 branches-là. D'accord ? Et donc maintenant, si on fait ce type d'analyse sur l'ensemble des génomes, entre l'homme qu'on parle, l'homme et la souris et le poisson, on va pouvoir trouver, parmi les gènes qu'on trouve en plusieurs copies, si en effet ces gènes en plusieurs copies se trouvent aussi, par exemple, chez la souris, donc ça veut dire que cette duplication aurait eu lieu au moins avant l'homme et la souris, mais est-ce que cette duplication se trouve aussi chez le poisson ? Donc ça veut dire que cette duplication aurait eu lieu avant la différenciation poisson, etc., etc. Et en utilisant donc alors je vous passe les détails, c'est assez compliqué, en effet, ça suggère qu'il y a eu vraisemblablement 2 événements de duplication, donc conformes à l'hypothèse de Hono, c'est-à-dire qu'en fait, l'émergence des vertébrés a été possible ou a été accompagnée, après qui est la cause, qui est l'effet, par ce phénomène de duplication entière de génome. Et quand on pense à duplication entière de génome, c'est qu'on multiplie par 2 l'information génétique et on donne la possibilité à ces gènes qui sont dupliqués de changer, d'accumuler des mutations et donc l'émergence de nouvelles propriétés. Alors, voilà donc quelques faits qui semblent quand même corroborer l'idée d'une descendance par modification, le fait que toute espèce est dérivée d'un ancêtre commun. J'aimerais maintenant qu'on voit quelques cas récents, d'illustrations récentes dans les publications scientifiques, dans la littérature scientifique, sur l'idée d'adaptation ou l'idée de sélection. Trouve-t-on des traces de la sélection ? Alors, tout d'abord, quand même, la sélection naturelle, c'est quand même un phénomène que nous connaissons bien. C'est quand même le processus qui explique le développement des bactéries résistantes aux antibiotiques. la résistance des moustiques aux insecticides, la résistance des mauvaises herbes. C'est des choses que l'on voit, que l'on connaît. Et pour expliquer cela, le fait que vous avez l'émergence, l'augmentation finalement en fréquence d'individus résistants, eh bien c'est le fait de la sélection naturelle. Alors, en quoi consiste ce processus de sélection quand on parle d'un pathogène? Par exemple, pour un pathogène donné, tout variant capable de contourner les gènes de résistance de son hôte aura de ce fait la possibilité de se multiplier plus que les autres. Et généralement, pour un pathogène, pour arriver à envahir un organisme, il faut qu'il ne soit pas vu. Pas vu, pas pris. Donc, le pathogène, comme il a un taux de génération très très rapide, il va changer très rapidement, beaucoup plus vite que l'hôte. Et donc, l'idée, c'est qu'il soit furtif, pas vu par l'organisme. Et donc, du fait de cet avantage de pouvoir contourner la résistance de l'hôte, on va à terme avoir une population de pathogènes, vous prenez des bactéries, prenez des virus, qui seront très agressifs, très virulents. Alors, il faut voir quand même, c'est que ceci en retour va créer une pression de sélection en faveur de tout allèle de l'hôte capable de résister. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sorte de course aux armements où le pathogène essaye de ne pas être vu, essaye de contourner la résistance, et l'hôte, eh bien finalement, l'individu, le variant qui va être capable de détecter cette nouvelle forme de pathogène aura un avantage sur les autres puisqu'il survivra. D'accord ? Donc on s'attend, et c'est ce que l'on observe dans les populations naturelles, eh bien à un équilibre, en fait, une forte variabilité au niveau des pathogènes et une forte variabilité au niveau des gènes de résistance de l'hôte. Ce que j'appelle population naturelle, c'est un groupe d'individus qui vivent qui sont dans la nature, d'accord ? Donc c'est pas un champ cultivé, par exemple. Et généralement, dans ces populations naturelles, les maladies sont présentes, mais ce qu'on appelle un état endémique, il y a un équilibre entre les gènes de résistance et les gènes de pathogènes. Maintenant, prenez un pathogène virulent dans cette population naturelle et confrontez-le à un environnement homogène et qui, en plus, est composé d'individus qui sont sensibles ou naïfs, qui n'ont jamais vu ce pathogène. Vous attendez à quoi ? Eh bien, vous imaginez bien que ce pathogène, qui est virulent, très agressif et qui ne rencontre aucune barrière dans son développement, eh bien, il va envahir la population. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle un développement épidémique de la maladie. C'est ce qu'on observe. C'est le cas, par exemple, dans les champs cultivés. La difficulté qu'on a de développer des gènes de résistance dans les variétés cultivées de plantes, c'est que généralement, les pathogènes, ils contournent très, très vite les résistances. C'est le cas, par exemple, des populations indiennes d'Amérique qui ont été décimées par exemple, le virus de la rougeole, puisque finalement, ces individus-là n'avaient jamais été confrontés à ce virus de la rougeole, donc ils n'avaient pas de gènes de résistance. Donc, vous voyez que la théorie de l'évolution biologique permet aussi de comprendre des phénomènes que l'on observe aujourd'hui, permet de produire des modèles prédictifs de risques épidémiques, et je pense que ça, vous êtes très sensible aujourd'hui, même si parfois les interprétations sont pas toujours évidentes. Donc, juste une petite remarque pour vous dire que la théorie de l'évolution biologique, parfois on peut considérer que c'est un petit peu une sorte de science fondamentale. La question des origines, elle est intéressante, mais finalement, elle ne sait pas à grand-chose. Il faut savoir que la théorie de l'évolution biologique permet de conduire une politique raisonnée de santé publique. Il y a des modèles mathématiques d'évolution biologique qui permettent de savoir, de voir, bien finalement, quelle stratégie de vaccination doit-on avoir ? Doit-on vacciner tout le monde ? Qui doit-on vacciner ? Etc., etc. Je ne mets aucun a priori éthique, j'espère que vous avez bien compris. Alors voilà quelques cas d'adaptation, puis quelques exemples là dans la littérature scientifique. Vous avez ici, ce sont donc les travaux de Opi Hoekstra, qui est chercheur à l'université d'Harvard. Et donc, elle nous raconte l'histoire, cette publication, d'une petite souris très mignonne, qui s'appelle donc la souris sylvestre, et qui généralement est foncée. D'accord ? Donc, vous avez ici, en fait, son environnement naturel, qui est plutôt foncé, et puis son environnement clair, je ne sais pas si on voit très très bien, mais... Et vous voyez qu'évidemment, pour cette souris-là, il vaut mieux être ici que là, d'accord ? Parce que l'objectif d'une souris, c'est de ne pas être vue. Encore une fois, pas vue, pas pris, puisqu'en fait, elle est sujette évidemment aux oiseaux prédateurs, et si le prédateur le voit, elle le mange. D'accord ? Donc une pression de sélection très forte à être camouflée. C'est quelque chose de très commun dans la nature. Vous avez ici un variant que l'on retrouve dans un habitat particulier dans le Nebraska, qui sont des dunes de sable, dont l'émergence est relativement récente, à peu près 8000 années, d'accord, et composée essentiellement de quartz, ce qui fait que c'est plus clair. Et vous voyez que, évidemment, a priori en tout cas, on s'attend à ce que cette souris-là soit mieux camouflée sur ces dunes de sable, ce qui explique le fait justement qu'on les retrouve sur ces dunes de sable, que sur son habitat initial, initial. Alors en fait, ces différences de pelage, de clarté de pelage, plus ou moins foncé. Alors là, vous avez un zoom sur les poils. En fait, vous voyez que les individus qui sont clairs, en fait, ont une bande claire plus large. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de white band, le type white band, parce que la bande est large. D'accord ? Alors on sait quel est le gène responsable de cette couleur, de cette large bande. C'est ce qu'on appelle le gène Agusti. Donc n'ayez pas peur, on ne va pas aller dans le détail. C'est simplement pour vous montrer que c'est sérieux. Et vous voyez qu'ici, on regarde l'expression de ce gène, peu importe comment on le regarde, mais imaginez que plus le gène est exprimé, plus finalement cet histogramme va être important. D'accord ? Donc c'est la quantité d'ARN, je crois, qui a été mesurée. D'accord ? Donc souvenez-vous que les individus qui sont AWB sont clairs. Et en fait, ce gène, cet allèle-là, permet une production plus forte de la protéine, ou de l'ARN, disons, codée par le gène Agusti. Et donc, en fait, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est d'ensuite de regarder si l'on pouvait trouver la cause de cette différence d'expression, parce que l'idée est la suivante. Ces deux souris, eh bien, elles ont une couleur différente. C'est dû à une variation dans le gène Agusti. D'accord ? Et ils ont trouvé cette différence par des différentes méthodes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la séquence de ce gène, disons la séquence, c'est-à-dire les ATGC, la phrase de base, entre les individus qui sont clairs et les individus qui sont foncés, et on regarde si les individus qui sont clairs partagent tous la même variation. D'accord ? Puisque l'idée, c'est qu'il y a une variation qui fait que le gène est plus exprimé. Et en fait, ils l'ont trouvé. C'est une insertion au niveau de la partie codante du gène Agusti. Donc, le scénario est le suivant. Donc, ensuite, ce qu'ont fait ces auteurs, alors par des méthodes mathématiques, en fait, on peut arriver sur la base de la diversité qu'on observe, estimer l'âge de cet allèle, donc cet allèle qui est WB, et ils ont en fait montré que vraisemblablement, donc là c'est des statistiques, hein, donc on associe au résultat ce qu'on appelle un intervalle de confiance, eh bien vraisemblablement cet allèle est apparu après l'émergence de ce nouvel habitat. Donc l'idée est la suivante, c'est que vous avez un nouvel habitat, ces dunes de sable, quelques souris sauvages qui se retrouvent et qui ont une variation de couleur qui se retrouvent dans ces dunes de sable, émergence, arrivée d'une mutation qui va conférer un avantage dans ce nouveau milieu, puisque vous êtes mieux camouflé. Et cet allèle va augmenter en fréquence, c'est-à-dire qu'à terme, la plupart des individus sont clairs. Donc vous avez ici la trace d'un événement d'adaptation, très très clair, dans une espèce de vertébré. Et qui a donc eu pour cible un gène très particulier. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple, qui est le cas de la tolérance au lactose chez l'homme. Donc, vous savez qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de notre capacité à digérer le lait quand on est adulte. On est tous capables, en tant qu'enfant, de digérer le lait. Quand on parle de digérer le lait, c'est d'être tolérant au lactose, mais il y a une variation de tolérance. Dans les populations d'Europe du Nord, les gens sont plutôt tolérants au lactose à l'âge adulte, et puis dans les populations d'Europe du Sud, ils sont plutôt pas tolérants. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la persistance de l'activité lactase, puisque en fait, la capacité ou pas de digérer le lait, de digérer le lactose, c'est l'activité d'une enzyme qu'on appelle la lactase. D'accord ? Donc les individus qui sont tolérants au lactose, eh bien, ont une activité lactase qui a persisté au cours du temps, à l'âge adulte, alors que les individus qui ne sont pas tolérants au lactose, eh bien, les individus qui ne sont pas tolérants au lactose ont perdu cette activité lactase. Alors, les chercheurs ont montré, donc c'est cette équipe-là, et puis d'autres, je vous montre juste les résultats de cette équipe-là. Vous avez ici le gène LCT, c'est celui qui code pour la lactase. Et en fait, le fait que vous puissiez ou pas digérer le lactose est dû non pas à l'activité elle-même du gène lactase, mais à un gène qui contrôle son expression. C'est-à-dire qu'en fait, ce gène MCM6, c'est lui qui va être responsable de votre capacité ou non à tolérer le lactose. Alors, il est responsable comment ? C'est-à-dire qu'en fait, suivant la forme qu'il aura, eh bien, il y aura du lactase qui sera produit ou du lactase qui ne sera pas produit. D'accord ? Mais c'est la variation au niveau de ce gène en amont qui se trouve, sur à peu près 14 000 bases de ce gène-là, qui se trouve, qui régule finalement l'expression, disons-là, le fait ou non que vous ayez une protéine de lactase. Donc voilà les types de variants que l'on a trouvés. Donc vous avez ici donc, la séquence du gène MCM6, et puis différents variants, c'est-à-dire des variations parmi différents individus qui ont été collectés. Certains ont un C à la position -13910, certains ont un T, d'accord ? Alors, je vais faire la chose courte, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer, je vais essayer très simplement. Ici, vous avez, donc, imaginez, donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont séquencé ce gène, donc, MCM6, qui est responsable ou non de la persistance de lactase, disons le fait, la capacité de digérer le lait à l'âge adulte. En fait, ces différents variants, en fait, ils sont symbolisés ici par des cercles, d'accord ? C'est ceux que l'on a vus dans les populations. Et vous avez donc deux types de variants, ceux qui confèrent la capacité à digérer le lait, les verts, et ceux qui font que ces gens-là, qui ont ce gène-là, ils ont cette forme-là, ne sont pas capables de digérer, ne sont pas tolérants au lactose, ils ne sont pas capables de digérer le lactose. D'accord ? Donc vous voyez que vous avez différentes formes, des formes qui sont donc non persistantes, qui font que c'est non persistant, dont l'activité lactase n'est pas persistante, d'autres qui le sont. Alors en regardant ces séquences, on peut quand même essayer de trouver. On peut assez facilement, finalement, décrire lesquels sont dérivés de qui, d'accord ? Et on va relier, on va construire un réseau de variants, chaque variant étant relié par un réseau de mutations. C'est-à-dire que pour passer de là à là, il y a une mutation au niveau d'un site. Et puis pour passer de là à là, il y a deux mutations, il y a celle-ci, il y a celle-ci. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on constate ? Quand ils ont séquencé, donc, ils avaient des populations humaines avec des gens qui étaient tolérants au lactose et d'autres qui ne l'étaient pas. Il remarque donc que le fait d'être tolérant au lactose dans les populations européennes eh bien, est lié à une variation au niveau d'un site très particulier qui est celui-ci, que la tolérance au lactose dans des populations d'Afrique de l'Est ressemble beaucoup à ce variant-là et sont vraisemblablement dérivés d'un ancêtre commun assez récent, mais que par contre, lorsqu'on regarde les populations de Bédouins, disons d'Arabie Saoudite, qui eux aussi sont tolérants au lactose et qui ont un régime donc de pastoraliste, eh bien vous voyez que c'est l'émergence d'une nouvelle mutation, une sorte de qui fait que ce n'est pas la même mutation qui permet à ces individus-là de tolérer le lait. Et peut-être que ce qui a créé cette différenciation, disons cette sélection un peu différentielle, c'est que ici ces gens-là consomment du lait de chamelle, alors qu'ici plutôt du lait de vache, donc avec des propriétés très différentes. Donc ici vous avez donc la trace. Eh bien, encore d'une adaptation relativement récente qu'on peut tracer à peu près à l'émergence de la domestication de l'élevage laitier, donc à peu près 10 000 ans. Et ces données génétiques sont relativement concordantes à l'émergence de l'élevage des vaches et puis des brebis il y a à peu près 10 000 ans. Alors, c'est intéressant, ça, parce qu'au-delà de l'aspect historique, c'est que l'on pense que tous ces gènes qui pouvaient conférer un avantage... Évidemment, je pense que vous comprenez bien que dans des populations pastorales de bergers qui consomment essentiellement du lait, c'est quand même un gros avantage de pouvoir le digérer. D'accord ? Par contre, quand, dans d'autres populations où finalement le régime alimentaire est diversifié, eh bien, ce n'est plus très ça n'a plus cet avantage-là. D'accord ? Donc c'est vraiment lié à une adaptation liée à un régime alimentaire. Alors, tous ces gènes que l'on retrouve qui sont impliqués dans des régimes alimentaires, dans des habitudes alimentaires anciennes, eh bien, étaient peut-être avantageuses à un moment donné, en particulier quand vous n'étiez pas sûr, en tant que tribu nomade, d'avoir souvent de quoi manger. Et vraisemblablement, ces variants qui conféraient un avantage il y a très longtemps, il y a 10 000 ans, par exemple, dans l'espèce humaine, sont peut-être ces mêmes variants qui sont maintenant responsables de l'obésité, de toutes les maladies cardiovasculaire, parce que finalement, maintenant, on a tellement à manger qu'on n'a plus besoin de stocker du gras, d'accord, contrairement à ce qui était le cas il y a 10 000 ans. Donc, ça renvoie même à des possibilités de cibles de gènes impliqués dans des maladies génétiques aujourd'hui, et donc des problèmes de santé publique. Alors, je voudrais maintenant juste répondre à... me poser la question des questions ouvertes puisque c'était le titre qu'on m'avait donné. Alors, voilà comment j'ai compris cette question. Pour moi, les questions qui sont ouvertes, elles sont, je vais vous parler que des questions qui sont ouvertes au sein de la communauté scientifique, d'accord ? Puisque je vais rester dans mon champ de spécialité. Il est clair que je vous ai parlé d'adaptation, on a quelques exemples, mais on est au balbutiement de cela, et il y a débat au sein de la communauté scientifique sur le rôle de l'adaptation dans l'évolution des espèces. Il y a débat, et parce qu'on manque de données, quelles sont les bases génétiques de l'adaptation ? Quels sont les gènes impliqués ? Est-ce qu'il y en a un grand nombre ? Est-ce qu'il y en a un petit nombre ? C'est des choses qu'on ne sait pas, parce qu'on n'avait pas les outils pour y répondre. Quelle est la part de la sélection et du hasard ? Vraisemblablement, l'évolution des génomes tels qu'on les observe, une grande partie de ce que l'on observe, des propriétés des génomes, et en particulier le fait que, finalement, 95% du génome, ce ne sont pas des gènes, c'est vraisemblablement lié au hasard. Et donc, évidemment, il y a débat dans la communauté scientifique, comme dans toute communauté scientifique, sur la part relative de ces différents phénomènes. Mais il n'y a pas remise en cause de l'évolution biologique. Ça pose la question aussi, il y a des débats dans la communauté scientifique sur la part d'une évolution graduelle au cours du temps dans l'émergence des espèces, et peut-être des événements qui sont un peu plus drastiques, un peu plus dramatiques. Je vous ai montré la duplication des génomes entiers, et là on peut imaginer que ces phénomènes-là amènent un saut qualitatif et quantitatif énorme, donc on est presque dans l'idée d'une vision saltationniste, et je pense que les deux doivent sûrement exister, on ne connaît pas bien la part des choses. Il faut savoir que chez les plantes, un des processus majeurs de diversification des plantes, c'est justement ces phénomènes de duplication. En fait, par hybridation, vous avez deux espèces qui se croisent accidentellement et qui génèrent une nouvelle espèce. Et on a des espèces invasives aujourd'hui sur nos territoires qui sont issues de cette hybridation, et ce sont des nouvelles espèces qui sont apparues quasiment aujourd'hui. Dernière question, c'est la notion de complexité irréductible. Donc là, c'est un petit peu une sorte de clin d'œil à l'intelligent design. Il me semble que l'intelligent design, on aura peut-être l'occasion de discuter, est une vraie fausse solution parce qu'elle ne propose pas de valeur prédictive. Et en particulier, en fait, elle propose Dieu lorsque on n'a plus d'explication. Et donc, c'est un peu, vous savez, ce qu'on a appelé the God of the Gap, c'est-à-dire un peu le Dieu de l'inexpliqué. Et le problème, quand on se retrouve scientifiquement à une question qu'on ne sait pas résoudre, on met Dieu là-dedans, mais finalement, avec le temps, cet espace dans lequel on met Dieu va se réduire. Et donc, c'est réduire finalement l'action de Dieu, à mon avis, dans la création, que de le mettre là où on n'a pas d'explication. Et puis, on a quand même des arguments et des modèles mathématiques et puis quelques résultats qui commencent à montrer que l'émergence de la complexité, l'émergence de l'œil, l'émergence des métabolismes peut s'expliquer par une évolution graduelle. Alors, je finirai juste par une question. Est-ce qu'on peut arriver à un dialogue ? Puisque, je suis qu'une seule personne. Et évidemment, en tant que croyant, ça me renvoie à pas mal de questions. Et ces questions n'ont pas toutes de réponses. Mais je pense que je veux conclure en disant qu'en tant que croyant, c'est par la foi que je crois que Dieu a créé les cieux et la terre, et toutes les formes vivantes et passées. Et c'est ma foi qui me permet de voir, dans ce que j'observe dans la nature, le Dieu créateur. Mais ce n'est pas une observation purement objective, scientifique, qui me renvoie à Dieu. C'est parce que je crois que Dieu existe, c'est parce que je crois en sa révélation, que je discerne à travers ce que j'observe l'action de Dieu. Ce qui me semble très intéressant aussi, c'est quand dans cette notion de dévolution, évidemment, il y a le temps qui intervient. Je pense qu'il peut être intéressant en tant qu'homme de se positionner par rapport au temps et d'accepter l'idée que finalement nous sommes inscrits dans le temps en tant que créature finie et que ce temps finalement c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction. C'est comme ça, c'est inhérent à nous-mêmes et quand vous regardez l'incarnation du Christ, il s'est incarné dans le temps aussi. Et je crois que le temps fait partie aussi de notre humanité. Voilà, c'est juste des questions que je me pose comme ça. Mais je pense que c'est très intéressant parce que je pense que dans nos milieux, on a peut-être réduit l'action de Dieu à une action immédiate, à l'immédiateté des choses, alors qu'en fait, on constate que finalement, on a quand même besoin de temps pour grandir et que Dieu a utilisé ce temps aussi pour former les espèces. Ça nous amène à reconsidérer peut-être la manière dont Dieu agit dans la création, quelle est sa place, quelle est son action. Et peut-être, justement, peut-on considérer que les processus proposés par l'évolution biologique font partie des lois de la nature, au même titre qui est les lois de la nature qui expliquent le mouvement des planètes et l'expansion de l'univers. Voilà, merci.